Doctrine No 9. Cristallisé par la doctrine. Par Brian Kozurek. 17 mai 2015. Avant de commencer notre message, ce matin, nous voulons prendre un instant pour consacrer le petit William Bates Sterling au Seigneur. Il est Esther le fils de Justin et de Christine Una Bates. Et c'est Esther le premier garçon dans ma famille. Après avoir eu 3 filles et une petite fille, je suis sûr que je vais devoir apprendre de nouvelles choses auxquelles je n'ai jamais eu à faire face. Et en ce qui concerne la consécration, habituellement, j'apporte un petit message sur comment les parents sont en réalité ici pour consacrer leur vie à élever leur petit pour Dieu. Comme Anne qui a donné son petit Samuel à Élie, le sacrificateur, afin de l'élever pour qu'il serve le Seigneur. Et je sais que vous avez déjà tous les deux consacré vos vies à Dieu. Et maintenant vous avez un peu plus de responsabilité, parce que vous en avez maintenant 2. Que vous devez élever en tant qu'administrateur de Dieu. Il vous a donné ce paquet de vies à élever et à le lui redonner par la consécration. Et nous croyons que vous le ferez. Comme la Bible dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, ce sont les voies de Dieu, et quand il sera grand, il Néhémie s'en détournera pas. Maintenant, nous Néhémie baptisons pas les bébés, nous nous consacrons à élever cette petite vie à Dieu. Frère Branham dit dans sa prédication, que votre lumière luise ainsi devant les hommes 3 septembre 1961 p. 18 maintenant. En toute sincérité, j'ai encore 2 enfants qui n'ont pas encore été baptisés. En effet, ils ont juste été consacrés. J'ai un bébé dans la gloire qui a été simplement consacré, pas baptisé. Car le baptême, c'est Esther pour la rémission des péchés, vous voyez? Pour montrer que vous vous êtes repenti. Ce bébé n'a rien fait pour s'en repentir. C'est Esther un bébé. Il est Esther juste né ici dans ce monde. Il n'a pas de pouvoir quand elle est venue ici. Vous voyez? Il n'a pas de péché. Quand Christ Esther est mort à la croix, il Esther est mort pour ôter le péché du monde. Jusqu'à ce que ce bébé fasse quelque chose dont il puisse se repentir, le sang de Jésus-Christ fait l'expiation. Mais, maintenant, la mère et le père, les parents ont le droit d'amener le bébé et de le présenter à nouveau à Dieu, qui le leur a donné. Ainsi, nous allons élever le petit enfant devant Dieu dans la prière et le consacrer à Christ. Inclinons nos têtes. Père Céleste, comme ton serviteur, nous élevons le petit William Sterling Bates devant toi. Au nom du Seigneur Jésus. Nous le consacrons et réclamons sa vie pour le royaume de Dieu. Puisse-t-il vivre, grandir et être un vrai ministre de l'Évangile, si tu tardais, Seigneur, de même que son père et son grand-père ont aussi consacré leur vie à te servir, puisse le petit William Sterling marcher devant toi et être parfait dans son amour pour toi. Et Père, puisse-t-il en faire entrer beaucoup, dans ton royaume, Père. Nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ, ton Fils obéissant, dont le plus grand amour était de te plaire, Père, et nous demandons que tu mettes, dans ce petit William, ce même esprit que tu as mis dans ton Fils premier-né Jésus, car nous le demandons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, si nous voulons bien ouvrir nos Bibles, ce matin, dans Hébreux 11, 1 or la foi Esther la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. 1. Inclinons nos têtes pour la prière. Nous avons lu l'apôtre Paul au sujet de la foi, où il a dit, la foi Esther la substance des choses qu'on espère, l'évidence de choses non visibles. Ainsi, nous voyons que la foi Esther, à la fois, la substance et l'évidence. Et comme nous savons que la foi Esther est une révélation, parce qu'un prophète confirmé nous l'a dit dans plusieurs de ses prédications. Les œuvres sont la foi exprimée 65-1126, 105. Or, la foi est une révélation venant de Dieu. Donc, la foi est une révélation. Je veux m'arrêter là-dessus un instant. C'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Et Dieu vous la révèle. Par conséquent, la foi est une révélation. Et toute l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. L'enlèvement 65-1219, 65 mais pour l'église, l'épouse. L'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. 66 est une révélation. Car la révélation est la foi. Vous n'y pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi, c'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l'est. Bon. Permettez-moi de m'arrêter encore ici un instant, car je pense qu'il se peut que je touche un de ces ismes sacrés que beaucoup de nous avions pendant des années et des années. Isme, que je pense, d'après ce que frère Branham nous dit ici, être faux. Pour ceux qui sont trop jeunes pour comprendre mes propos, on avait l'habitude de dire des choses telles que, nous n'avons pas assez de foi pour guérir d'un corps au pied, encore moins pour changer de corps, comme si la foi était quelque chose que nous, à tous les versets de la Bible, dans ce sermon, sont des traductions de la version de la Bible autorisée ou King James version roi Jacques, sauf indication contraire, pouvons produire par magie. Comme si la foi était une prouesse mentale ou un état mental ou spirituel dans lequel nous pouvons entrer en nous y excitant. Et ainsi, nous évoquons dans nos pensées que Dieu devra faire quelque chose de rudement puissant pour nous donner la foi de l'enlèvement. Et donc déjà, dans nos pensées, nous nous éloignons de la volonté de Dieu, en essayant d'arriver à comprendre comment Dieu nous donnera cette foi, alors que la foi est simplement une révélation, c'est quelque chose que Dieu vous révèle, et si Dieu le révèle, alors ce n'est pas par la force, ni par la puissance mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dans sa prédication, Les oins du temps de la fin 65-0725, frère Branham dit, 53, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation. 54 Et les églises d'aujourd'hui Néhémie croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement dogmatique d'un système quelconque. Donc, en lisant les paroles de l'apôtre Paul, il a dit la foi insérant la révélation. La révélation est la substance des choses qu'on espère, et l'évidence des choses non visibles. Ou comme frère Branham le dit, non encore visibles. Et si la foi, ou la révélation, est la substance des choses qu'on espère, nous devons comprendre que le mot espérance signifie une attente fervente. C'est quelque chose qui n'est pas encore produit, mais que nous espérons, avec ferveur, voir se produire ou arriver à un moment dans le futur. Et l'apôtre Paul dit aussi dans Romains 8:24-25, 24 car nous sommes sauvés par l'espérance. Mais l'espérance que l'on voit n'est-elle plus espérance? Car ce que l'homme voit, pourquoi l'espère-t-il encore? 25 Mais si nous espérons ce que nous n'y voyons pas, alors nous l'attendons avec patience. Remarquez, la sagesse ici. Il dit que si nous l'espérons, alors cela veut dire que nous espérons sincèrement que cela se produise. Et si nous espérons sincèrement que cela se produise, alors nous aurons la patience d'attendre que cela se produise. Donc, il n'est pas question que nous nous pressions dans cette foi sensationnelle pour faire en sorte que nos corps obéissent à notre ordre et provoquons ainsi le changement du corps. Mais, grosso modo, si nous croyons vraiment que la foi est une révélation, et nous savons que la définition de la révélation, c'est la manifestation de la vérité divine, alors nous devons être disposés à attendre jusqu'au moment où Dieu commencera à provoquer la résurrection et le changement du corps, et nous, en voyant cette vérité divine manifestée, nous verrons ou serons témoins de sa révélation, et dès maintenant, nous en sommes une partie parce que cela nous est révélé. Et Paul a dit, si nous les voyons, alors nous n'y l'attendons plus, n'est-ce pas, car nous sommes sauvés par l'espérance, mais l'espérance que l'on voit n'est-ce plus espérance, car ce que l'homme voit, pourquoi l'espère-t-il encore? 25 Mais si nous espérons ce que nous n'y voyons pas, alors nous l'attendons avec patience. Ainsi, lorsqu'on le voit, ce n'est plus de l'espérance. Lorsqu'on le voit, ce n'est plus une attente fervente. C'est ici. Donc, j'ose croire que, maintenant, nous sommes arrivés à la position d'avoir dépassé la foi lorsqu'on en vient à la révélation de l'apparition de Christ. Parce que nous savons qu'il est ici, nous savons que le Seigneur est descendu avec un cri, qui est un message. Nous y sommes, alors qu'avons-nous regardé au bout de la route, pour que cela produise quelque part sur la route, alors que cela a déjà commencé. Un tiers des événements a déjà commencé, et s'est accompli. Et l'ordre de sa venue, l'enlèvement des saints, le rassemblement à lui et tous ces événements qui appartiennent à sa révélation personnelle au temps de la fin, et le départ à la maison des élus, sont en place maintenant même, et nous sommes participants de sa grande révélation. Ainsi, quelle foi faut-il pour croire l'enlèvement alors que nous y sommes déjà et qu'un tiers est déjà passé? Hébreux 11, 7 Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'y se voyaient pas encore, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde, et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Noé, étant averti par Dieu de ce qui arrivait, par la foi, commença à appliquer le signe pour sa famille, et il construisit l'arche et entra, puis il attendit la pluie. Tout cela par la foi, de là jusqu'à la fermeture des portes, et une fois que Dieu ferma les portes, il n'aimait lui restait que de s'asseoir et d'attendre qu'il pleuve. Mais il était déjà dans l'arche, comme nous sommes déjà en Christ, car ce fut Christ qui descendit avec un cri, qui fut l'avertissement avant que le déluge Néhémie vienne, et l'arche, un type de Christ, l'enleva, ce qui est un type de l'enlèvement, pour éviter les orages du jugement qui frappèrent alors la terre. Puis, une fois dans l'arche, la foi Néhémie fut plus nécessaire, parce que, comme frère Branham l'a dit, il n'est plus question de foi quand nous pouvons voir que ces choses se sont déjà produites, ou qu'elles sont en train de se produire, et que nous sommes, non seulement, en mesure de les voir se produire, mais aussi de reconnaître ce qui se produit et de les ramener à la promesse. Oh, Frères et sœurs, vous savez, je cogne depuis des années que la révélation, c'est la manifestation de la vérité divine. La révélation, c'est d'observer le déploiement ou le dévoilement de la parole, qui est la vérité divine. Et lorsque Dieu commence à ouvrir les yeux de votre cœur, ce qu'est la révélation et que vous voyez en fait se déployer son dessein et son plan pour vous, étant une partie du cri, de la voix et de la trompette, alors vous n'attendez plus, vous n'avez plus besoin de la foi pour attendre, jusqu'à ce que. Car jusqu'à ce que Esther déjà là. Alors, nous en sommes arrivés au point où nous n'attendons plus l'enlèvement, mais nous sommes entrés dans le processus de le recevoir, alors qu'il se déploie une étape à la fois, faisant ainsi de vous et de cette partie de la parole un, et faisant ainsi de vous une partie intégrale de ces manifestations de Christ au temps de la fin. Maintenant, voir et reconnaître cette révélation manifestée de Jésus-Christ au temps de la fin, Néhémie fait pas de vous lui, mais cela fait de vous une partie de lui. Tout comme Jean 14, 12 Néhémie fait pas de vous Christ, parce que ce sera Antichrist, mais cela fait de vous une partie de la manifestation de la révélation de Christ dans son épouse. Hébreux 11. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Avant de continuer, je veux que vous observiez ce verset de la Bible ici et remarquiez qu'il dit que la foi n'est pas seulement la substance. Mais Paul nous dit que la foi est l'évidence ou l'assurance même des choses qu'on espère. Remarquez que l'apôtre Paul nous dit que la foi est la substance et l'évidence. Et remarquez qu'il nous dit que la foi n'est pas une substance, mais la substance. Et nous savons que le mot substance selon Webster, c'est la partie, ou l'élément, réel ou essentiel de n'importe quelle chose, l'essence, la réalité ou la matière essentielle. La matière physique d'où une chose tire son existence. Donc, si la foi est la substance, alors la foi doit être faite de la même essence que Dieu. N'est-ce pas? Or, ce mot substance a été traduit du mot grec hypostasis et nous voyons ce même mot être aussi utilisé par le même auteur de ce livre des Hébreux au premier chapitre, Hébreux 1, 3 qui, étant le rayonnement de sa gloire et l'image exprimée de sa personne, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance, lorsqu'il a par lui-même fait la purification de nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauts lieux. Maintenant, quel mot, dans ce verset, pensez-vous être le même mot grec pour « substance » utilisé au chapitre 11? C'est le mot « personne » qui décrit l'essence même de Dieu. Donc, si la foi est la substance ou l'essence de Dieu, alors la foi n'est pas différente du Fils de Dieu, car admettons-le, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair. Et étant donné que la Bible nous enseigne aussi que, l'homme est comme les pensées de son cœur. Et Jésus y a ajouté, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc un homme et sa parole sont la même chose. Donc, un homme est constitué de ce que sont ses pensées. Il est ni plus ni moins que ce qu'il pense dans son cœur. Maintenant, ce que j'essaie de faire ce matin, c'est de vous aider à voir comment la révélation de Jésus-Christ cristallisera ce que vous êtes. Dans le livre de Job, nous l'entendons dire ces mots, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce n'est pas une la palissade, mais c'est un fait. Car après tout, nos pensées Néhémie sont qu'un jardin de semences que nous avons semé. Et la semence que nous semons, c'est ce que nous récoltons, conformément à la loi de la reproduction telle que Dieu l'a établie dans le livre de la Genèse. Si nous semons des semences positives de la foi, nous récolterons ce que nous avons semé, nous récolterons les bénédictions qui viennent de la foi. Mais si nous semons des semences négatives de doute, alors, de même, nous recevrons les doutes que nous semons. Donc, si nous devons douter de quelque chose, nous devons douter de nos doutes. Car la foi est à l'évidence des choses qu'on n'y voit pas, qu'on n'y touche pas, qu'on n'y ressent pas, qu'on n'y sent pas avec l'odorat ou qu'on n'écoute pas avec l'ouïe. La foi est à l'évidence. Donc, si la foi est à l'évidence, alors c'est à la conviction et l'assurance des choses qui sont là présents. Bien que par nos cinq sens, nous n'y pouvons pas en détecter la présence. Et la foi est à non seulement l'évidence, mais c'est à aussi la substance. Donc, notre foi, qui est à une révélation, n'étant pas une substance mais la substance, est aussi la personne. Ainsi, nous allons bien plus loin qu'une simple attitude mentale. Nous entrons en Dieu lui-même. La révélation est la substance, la personne de Dieu, et elle, vous étant distinctement manifestée, est la preuve que vous êtes une partie de ce grand drame. Et ainsi, nous commençons alors à voir l'importance d'être élu et surtout choisi par Dieu lui-même, avant même qu'il n'appelle le monde à l'existence, pour devenir les vases de sa gloire, ses valeurs et ses opinions. Et donc, nous voyons l'énorme importance du Saint-Esprit, l'éminent Père de gloire qui est personnellement descendu parmi nous en cette dernière heure. Et il est ici dans le but de nous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui-même que nous voyons dans Éphésiens 1h17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de celui-ci. Maintenant, ça doit nous faire savoir que le Christ, qui apporte l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, commence aussi l'œuvre de la voix en nous, ce qui est à la résurrection et le changement du corps. Comme Paul a dit dans Philippiens 2h13, car c'est à Dieu qui œuvre en vous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Éphésiens 3h20 maintenant à celui qui est capable de faire abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. 1 Thessaloniciens 2h13 pour cela aussi, nous remercions Dieu sans cesse, parce que, lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, que vous avez entendue de nous, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu, qui agit efficacement aussi en vous qui croyez. Frère Branham nous a enseigné que quand vous êtes né de nouveau, alors vous avez maintenant un cœur nouveau, qui est une nouvelle compréhension, et cette nouvelle compréhension vous donne un nouveau désir, puis Dieu vous met en vous son propre esprit ou sa vie et maintenant, vous êtes en mesure de connaître et de comprendre. Et alors vous avez la foi, vous avez la révélation, et cette révélation produit en vous une expression extérieure et cela vous retire du chemin, en sorte que l'Esprit de Dieu soit désormais le poteau d'attache de votre âme. Et lorsque Paul cherchait la pensée même de Dieu, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, le Père, et il le faisait dans un seul but, et nous voyons ce but dans Éphésiens 1h18 que les yeux de votre intelligence soient éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance ou l'attente fervente de sa vocation, c'est de cela qu'il s'agit. En d'autres termes, vous saurez alors comment et pourquoi Dieu vous a appelé et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Vous voyez, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Père, c'est l'esprit d'adoption. C'est pour vous préparer à l'adoption. Frère Branham nous a enseigné que l'enfant, bien qu'il soit fils, était placé sous des tuteurs et des précepteurs jusqu'au temps de l'adoption. Et une fois qu'il avait acquis la pensée de son père, alors il était digne d'être adopté. Et alors tout ce qui appartenait au père, était partagé équitablement avec le fils. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Dieu est intervenu en cette heure avec l'esprit de sagesse et de révélation dans ses connaissances, pour nous donner un changement de pensée et nous préparer au changement de corps, que Paul appelle l'adoption, c'est-à-dire, la rédemption de nos corps. Bon. Avant que quelqu'un ait l'occasion de penser que frère Brian sort de ses gonds, permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire par là. Lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous avez reçu le gage de la résurrection en vous-même. Ainsi, Paul nous dit ceci, nous devons recevoir l'esprit de sagesse et de révélation dans ses connaissances et n'oubliez pas que cette révélation est sous forme de manifestation de la vérité divine. En d'autres termes, nous avons été témoins de la puissance de Dieu dans le Christ, et il nous a donné une certaine onction pour connaître toutes choses le concernant et concernant notre héritage et notre résurrection. Laissez-moi le relire. 18-1 Que les yeux de votre intelligence soient éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. 19 Et quelle est la surabondante grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de son puissant pouvoir, 20, qu'il a effectué en Christ, quand il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa main droite dans les lieux célestes. Et ce même apôtre dit dans Romains 8:11, mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels, par son esprit qui demeure en vous. Maintenant, nous savons que la vivification, c'est de rendre vivant. Mais c'est plus que d'être vivant, c'est une puissance transformatrice en vous. Une puissance de résurrection qui est maintenant dans votre corps. Le véritable saut de Pâques 61-040-226 Bon, nous sommes ressuscités, aujourd'hui. Comment pouvons-nous passer de tels moments sur les choses de Dieu? C'est parce que nous sommes ressuscités. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Nous sommes donc maintenant ressuscités. Nous sommes ressuscités de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Oh! Le remarquez-vous? Passez-les à l'extérieur, de cette manière, mais scellez-les à l'intérieur. Oh! Là là! Si l'Église pouvait seulement le voir. Vous voyez, nous n'y sommes pas scellés à l'extérieur, nous sommes scellés à l'intérieur. En ces jours-là, où le péché était une abomination aux yeux de Dieu, et qu'il n'y avait pas d'appropriation pour l'ôter, nous étions scellés loin de cela. Maintenant, lorsque cela fut déchiré en deux, et que ce sceau fut brisé par un sacrifice expiatoire offert à cause de nous, nous sommes alors baptisés à l'intérieur et scellés à l'intérieur. Nous sommes ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités. Nous sommes déjà ressuscités. Comment le savons-nous? La Bible le dit. Amen. Nous sommes maintenant ressuscités. Nous sommes maintenant ressuscités avec lui dans une résurrection spirituelle. Que signifie le mot vivifié? Vivifier signifie résurrection. C'est vrai. Nous sommes déjà ressuscités maintenant même, étant assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous nous réjouissons du sceau de Pâques. Amen. C'est cela le véritable sceau de Pâques de Dieu. Comment le sommes-nous? Nous avons été baptisés par un seul esprit dans le corps, et éternellement scellés. Nous sommes maintenant ressuscités spirituellement. De quoi sommes-nous ressuscités? D'une vie de péché. Autrefois nous étions des pécheurs et nous aimions les choses du monde. Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes, au temps passé, déjà vivifiés. Ce qui signifie que nous sommes rendus vivants des morts. Sesterce à la résurrection, la puissance de résurrection du Saint-Esprit en vous. Par conséquent, j'espère que vous pouvez voir l'importance de recevoir l'esprit de sagesse et de révélation dans ces connaissances. Ce mot connaissance, sester epiginosko, signifiant une pleine connaissance se fondant sur une relation intime complète. Et il faut cet esprit de sagesse et de révélation ou vérité divine manifestée venant dans son Église pour faire d'elle une épouse remplie de la pensée de Christ, et nous préparer en nous vivifiant, ou en nous rendant vivants, l'union spirituelle de l'épouse de Christ. Car seuls ceux qui le reçoivent peuvent, en fait, recevoir le premier changement dans l'homme intérieur, qui est un nécessaire avant que nous les mis soyons en mesure de recevoir le changement du corps, qui permettra un enlèvement ou une disparition. Sester ce que Paul dit dans Romains 12, 1-2 Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, un sacrifice qui est saint, et n'oubliez pas cela, parce que Dieu a dit, soyez saints car je suis saint, et celui qui est saint, nous a donné son Saint-Esprit, sa vie sainte pour nous rendre saints, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. 2 Néhémie soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés, comment? Par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez approuver par le test ce qu'est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Ainsi, nous examinons les effets du Christ dans votre homme intérieur qui est transformé par l'esprit de sagesse et de révélation dans ses connaissances. La 70e semaine de Daniel 61-08-06-67, elle se retrouve dans cet état-là, inclinée. Et tout ce que ça montre, sester que maintenant, sester seulement une période dans le temps. Néhémie voyez-vous pas? Dieu Néhémie peut pas voir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça pour un peu de temps. Et je crois réellement que sester ça qui est arrivé. Et sester dans ces derniers jours que Dieu va révéler ses secrets à l'Église. Il Néhémie l'a pas fait auparavant. Et s'il Néhémie l'a pas fait, sester pour que l'Église continue à veiller et à prier tout le temps, en Néhémie sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, il a dit, le sage comprendra, au dernier, en ce dernier jour. Voyez, cela lui a été donné. 68 L'esprit de sagesse entre dans l'Église pour faire connaître à l'Église, par la révélation du Saint-Esprit, il fait entrer l'Église et il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est revenu à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? Ainsi, la révélation de sa présence, la manifestation de sa présence, c'était dans le but que l'esprit de sagesse et de révélation dans sa pleine révélation, en venant dans l'Église dans les derniers jours, révèle ces grandes choses profondes et secrètes. Sester le cri de 1 Thessaloniciens 4:16 car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. 17 Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Remarquez, ce que cela nous fait, comme nous le voyons, dans 2 Corinthiens 4:16 Sester pourquoi nous n'aimons défaillons pas, même si notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, et nous voyons que ce renouvellement se fait dans Éphésiens 4:23 et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 24 Et que vous revêtiez le nouvel homme, qui est créé selon Dieu, en droiture et vraie sainteté. Et nous voyons comment ça se fait, dans Colossiens 3:10 et avez revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Remarquez, dans Éphésiens 4:24 et Colossiens 3:10, il y a une certaine sorte de connaissance que nous devons avoir afin de recevoir un changement dans nos corps. Et comme nous l'avons vu dans Colossiens 3:10, cette connaissance s'estère selon la connaissance de celui qui a créé l'homme intérieur. Et il n'y a qu'une seule personne qui puisse créer s'estère Dieu, le Créateur lui-même. Maintenant, je pense qu'il est intéressant de remarquer que dans tout ce que Dieu a pour nous, il y a toujours un positif et un négatif à cette chose. Deutéronome 28 nous dit que pour chaque bénédiction, il y a aussi une malédiction, mais tout dépend de notre approche de la parole de Dieu. Que nous voulions la recevoir ou la rejeter. Car en la recevant, nous recevons les bénédictions, mais en rejetant sa parole ou en s'en éloignant, nous recevons de Dieu la malédiction. Et étant donné que la vie est le fruit de la bénédiction, et que la souffrance et la mort sont les fruits de la malédiction, pourquoi alors est-ce ce qu'une personne censée voudra rejeter ce qui est béni? Et vous remarquerez, nous avons lu dans Éphésiens 4:24 et dans Colossiens 3:10, le mot selon, où il est dit, et avait revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, que c'est la manière par laquelle Dieu produira l'image de notre homme intérieur. Ce mot selon Esther traduit du mot grec kata il Esther prononcé de la même manière que le mot japonais kata. Maintenant, dans la culture japonaise le kata Esther, une forme d'exercice qu'une personne fait pour produire une harmonie entre le corps et l'esprit. Alors que l'homme naturel se polarise sur son corps, le véritable croyant se polarise sur son âme et son esprit en étant en harmonie avec Dieu, en étant en harmonie avec sa parole. Ainsi, en lisant Éphésiens 4:24 et Colossiens 3:10, nous entendons Paul dire, et avait revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. Selon l'image, qu'est à l'image, et le mot kata en hébreu signifie à la ressemblance de. Donc, nous le lisons comme ceci, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, à la ressemblance de l'image de celui qu'il a créé. Remarquez qu'il est renouvelé en connaissance à la ressemblance du Créateur lui-même. Ainsi, c'est la connaissance de Dieu qui produit notre changement, quand il nous révèle cette connaissance. Et la parole de Dieu est une semence, et par conséquent, elle est porteuse de la vie Dieu. Et donc, après qu'elle soit semée, elle doit produire une vie à l'image de ce qui a été semé. Et c'est exactement ce que nous lisons dans Colossiens 3:10 et Éphésiens 4:23, maintenant, Pierre nous dit dans 1 Pierre 1:23 étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure pour toujours. Ainsi, ceux qui sont nés d'une semence incorruptible doivent être selon ou à la ressemblance de la vie Dieu, et ceux qui sont nés d'une semence corruptible produiront une forme de vie corrompue. Ils n'aiment ils peuvent s'en empêcher. La loi de la vie, dans Genèse 1:11, dit chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et ce qui fait que chaque semence vient à la manifestation de la vie qui est à l'intérieur, c'est la lumière de la parole de Dieu qui brille sur cette semence. L'apôtre Paul a dit qu'il faut la lumière pour tout manifester. Éphésiens 5:13. Mais toutes choses qui sont réprouvées sont rendues manifestes par la lumière, car tout ce qui est manifesté est à lumière. De ce fait, s'il n'y a pas de lumière, alors nous ne saurons jamais ce qu'est vraiment la semence. Alors, nous ne devrons pas être surpris lorsque nous voyons des gens, que nous connaissons probablement depuis des années, devenir si rapidement différents quand nous faisons l'écho ou reflétons la lumière de Dieu sur eux. Et Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, de grâce et paix vous soient multipliés par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et donc, nous voyons que la manifestation des attributs et des caractéristiques de Dieu sont formées en nous par sa parole. Comme nous le lisons dans 2 Pierre 2, 4. La nature même de Dieu, sa divine nature vient en nous par sa parole. 2 Pierre 1, 4. Par lesquelles nous sont données d'extrêmement grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ainsi frères, pour conclure, si nous avons vraiment été ravis dans la révélation du Christ, qui est la manifestation de la présence de Dieu à nous, alors nous n'aimons devons pas regarder à nous-mêmes pour produire une sorte de foi qui nous fera entrer dans l'enlèvement, car la foi ou la révélation est une substance, c'est la personne de Dieu, et il est venu à vous. Ce n'est pas vous qui vous élevez à lui, mais il est descendu à votre niveau pour faire de vous une partie de son grand dévoilement, et il a commencé le dévoilement dans son propre fils. Et en ce jour, en William Branham, le prophète confirmé de Dieu, le prémisse de la moisson, et maintenant vous. Alors, de quoi avez-vous peur, aujourd'hui? Frère Branham nous a dit que celui qui a fait la promesse est ici pour la confirmer. Et quelle est la promesse pour ce jour? Il y aura un enlèvement, qui est un cri, une voix, et une trompette. Et n'a-t-il pas déjà confirmé votre place dans son cri? N'avez-vous pas entendu le cri de minuit? Voici, il est ici, il se tient à la porte, et frappe. N'avez-vous pas été rendu conscient de sa présence parmi nous? Sa parousie, son apocalypsis, son phénro, son épiphanéa, son gynosko, sa doxa, sa parousia. Si vous avez été rendu participant du cri, alors Néhémie vous rendra-t-il pas participant de la voix et de la trompette? Alors, soyez à l'aise petite épouse. Car il a dit, il a plu à mon père de vous donner le royaume. Et il est ici pour l'accomplir. Apprenez simplement à croire et à obéir, car il n'y a pas d'autre moyen. Pour être heureux en Jésus, vous devez croire et obéir. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. C'est Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.